Salutations à ceux qui sont sur la toile également, qui nous écoutent peut-être en direct, soit en différé. Alors bonjour, bienvenue parmi nous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus qui est la lumière du monde. Et ça, c'est intéressant parce que la lumière, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas vivre sans lumière. On en a besoin. Imaginez-vous un monde sans lumière. Pas de lampe, pas de feu, pas de soleil, pas d'étoiles, pas de lune. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai vécu c'est quoi le noir absolu au lac Saint-Jean. Pourtant, vous allez dire c'est le pays des bleuets, là, mais c'est le noir absolu. C'est au trou de la fée. C'est quoi le trou de la fée? C'est une grotte qui est assez profonde, qu'on descend. Il y avait des gens qui se cachaient à l'époque pour ne pas aller à la guerre. Et c'est une visite, là, comme on visite un musée, mais là, c'est une grotte qu'on visite. On descend, on descend, on descend, on descend. Puis à un moment donné, le guide, il dit, il nous prépare. Je vais vous faire vivre c'est quoi le noir absolu. Parce que rendu ici, il n'y a aucune lumière du jour qui pénètre, qui se rend jusque-là. Et là, il ferme les lumières. Je vous dis, c'était impossible de voir ma main devant moi. Je la mettais devant mes yeux, là, je ne voyais rien, rien, rien. On ne voyait rien du tout. C'est tellement embarrassant. Puis ça a duré plusieurs secondes. Et c'est comme si ça me faisait réaliser c'était quoi la noirceur. Le plus près que j'ai pu vivre de ça, c'était quand j'étais sur le Mont-Royal, à Montréal. À un moment donné, on était dans le bois, on avait quitté les sentiers. Puis il commence à faire noir tranquillement. Puis à un moment donné, c'était une zone où est-ce qu'il n'y avait aucune lumière. Et je vous dis, il fallait marcher tranquillement parce qu'on voyait juste à peine en avant de nous. C'était traumatisant. Mais un monde sans lumière, ça serait inexistable. On a besoin de la lumière. Et ce qui arrive, c'est que, évidemment, pour compenser avec la lumière, l'être humain, Dieu merci, a développé sa créativité puis a pu remplacer la lumière du jour par une lumière qui est artificielle. Excusez, j'ai la difficulté avec mon pitonneux. Mais donc, ce qui est arrivé, c'est que ce qui arrive, c'est que nous, le soir, par exemple, quand on conduit, on a besoin de la lumière. Parce que, justement, la SAAQ nous dit que la conduite de nuit augmente les accidents. Pourquoi? Parce que la nuit, la vision est affectée par la diminution de l'éclairage naturel et les phares qu'on a sur nos automobiles, eh bien, ne réussissent pas à compenser l'absence de lumière du jour. Ce qui fait que les contrastes sont diminués, puis ça modifie la perception de la profondeur et du mouvement. Même avec de la lumière artificielle, eh bien, ça n'arrive pas à compenser la lumière du jour. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que... Voilà, ça me joue des tours aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un Mexicain, un scientifique mexicain du nom de José Carlos Rubio Avalos, qui a mis au point une substance qu'on peut couvrir sur la route pour que la route soit auto-éclairée. Alors ça, c'est intéressant, sa mise au point. Alors ça va augmenter s'il y a des pays ou des endroits qui l'utilisent. On l'utilise sur certaines pistes cyclables, mais si on l'utilisait sur la route, eh bien, ça augmenterait la luminosité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a besoin de lumière. On est des gens qui ont besoin de lumière parce qu'on doit vivre avec une réalité. La clarté du jour finit par disparaître à un moment donné. Et l'absence de lumière va affecter notre morale. Parce qu'il y a même un syndrome qu'on appelle la dépression saisonnière qui est reliée au manque de lumière. Et il y a certaines personnes qui, leur morale va être affectée, leur vigueur va être affectée, ils vont manquer d'énergie. Ils vont se lever le matin puis ils vont être démotivés. Ils vont voir les journées comme étant sombres. Et ça, c'est relié au manque de lumière. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont utiliser la luminothérapie. La luminothérapie, voyons donc. La luminothérapie, eh bien, je sais, ma première épouse, Carole, l'utilisait parce que justement, elle avait besoin de cette source artificielle pour compenser avec la lumière naturelle. Donc, en quoi ça consiste? C'est que vous êtes devant un écran, vous recevez de la lumière et ça compense pour la lumière du jour. Et ça a un effet direct. Physiquement, ça a un effet direct. De la même manière que notre corps a besoin de cette luminosité-là pour fonctionner de manière optimale, de la même manière que notre âme a besoin de la lumière de Jésus pour être éclairée. Mais le problème, c'est que notre cœur, lorsqu'il est exposé à la lumière de Jésus-Christ, eh bien, souvent, peut-être pas tout le temps, mais à certains moments, va être troublé. Parce que dans la lumière, on voit des choses qu'on ne voit pas à la noirceur. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais dans les années 80, mes parents avaient un chalet sur le bord du lac Labelle, dans les Laurentides. Puis, j'étais avec Carole, puis je décide d'aller prendre une marche. Pour les Français, aller prendre une marche, tout simplement, ça veut dire marcher. Alors, je suis allé marcher, mais ma mère, elle me dit, elle avait cette expression-là, « Éric, t'es mieux de prendre la lampe de poche, parce qu'ici, il fait noir comme chez le loup. » Et effectivement, dès qu'on a quitté le terrain, on était sur le bord de la route, puis on marchait, je veux dire, c'était noir, c'était incroyable. Mais là, à un moment donné, j'avais la lampe de poche qui pouvait nous éclairer un petit peu en avant. Et on entend un bruit. Et là, on se dit, attends une minute, c'est quoi ça? Quelle sorte de bête c'est? On ne pouvait pas voir, on pouvait juste entendre. Est-ce que c'est un lièvre? Est-ce que c'est un chat sauvage? Est-ce que c'est un ours? C'est quoi? Puis grâce à la lumière, on a pu voir que c'était un porc-épic qui tentait de monter dans l'arbre. Et quand j'ai mis la lumière sur lui, il a arrêté comme si il voulait fondre dans le décor. Et là, ça m'a fait voir, wow, on marche dans les ténèbres et dès qu'on a un peu de lumière, on peut voir le danger, voir les obstacles, prendre conscience de notre environnement. Et c'est ça que le Seigneur veut faire avec sa personne, avec sa parole, avec sa présence, c'est qu'il veut nous faire, nous démontrer, nous éclairer pour qu'on puisse être conscient de notre environnement. Mais quand la lumière descend dans notre cœur, ça nous amène à prendre conscience, souvent, des éléments sombres de notre cœur. Mais savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer de ces aspects sombres de notre cœur. Quand Jésus est venu au monde, on disait qu'il était la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, son peuple, dans Luc 2:32. Mais j'aimerais qu'on puisse se recueillir pour qu'on puisse se laisser parler par le texte de Jean 8:12. Et avant qu'on aille dans Jean 8:12, recueillons-nous, se recueillir, ça veut dire rassembler nos idées, nos pensées, pour que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui instruit. Parfois, elle nous confronte, parfois, elle nous déstabilise. Mais Seigneur, combien c'est précieux quand ta lumière nous amène à découvrir à contempler et apprécier la splendeur de ton évangile, de cette bonne nouvelle. Merci de nous donner de pouvoir méditer cette semaine sur ta parole et sur le fait que tu es la lumière du monde, Seigneur. Amen. Jean 8:12 nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et ce qu'on voit là-dedans dans le texte, c'est que Jésus éclaire dans un premier temps. Celui qui va le suivre ne marchera pas dans les ténèbres. Et dans le contexte, Jésus venait de parler à une foule et il était en train de mettre en lumière les motifs de leur cœur. Et il y a une partie de la foule qui résistait, puis une autre partie qui disait, c'est certainement le Messie, c'est certainement le prophète, parce qu'il est en train d'accomplir les miracles qui sont associés à la venue du Messie. Et là, par la suite, on voit l'épisode de cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et là, il la pardonne, elle qui méritait de subir la condamnation de la loi. Et suite à cela, il revient, puis il dit, « Je suis la lumière du monde. » Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Il est en train de dire qu'il y a de l'espoir. Même dans les ténèbres, il y a de l'espoir. Lorsqu'on tourne nos regards, lorsqu'on tourne nos yeux vers Jésus-Christ. On est dans un monde qui est de plus en plus fou, qui veut s'éloigner de plus en plus de la présence de Dieu, des principes de Dieu, de ce que Dieu dit des choses. Mais il reste que néanmoins, Jean nous dit au chapitre 1, que la lumière a lui dans les ténèbres. Et c'est ça que Dieu veut faire. Mais savez-vous qu'est-ce que ça produit? Quand la lumière lui dans les ténèbres, ça crée un inconfort. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont rejeter l'Évangile ou ne voudront pas laisser l'Évangile pénétrer leur cœur parce qu'il y a cette phase d'inconfort-là. Mais moi, ce que je dis à ces gens-là, ce que je vous dis, si vous écoutez ici, puis vous considérez que l'Évangile est inconfortable, de persévérer, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui s'attache à cet inconfort-là. Vous savez, dans notre monde, on recherche, en dehors de Jésus-Christ, à être lumineux. On recherche, en dehors de Jésus-Christ, à vivre, à expérimenter cet aspect-là d'être lumineux. La psychologie humaniste va dire, par exemple, que la confiance, c'est le secret des gens rayonnants, des gens lumineux. Mais ce qui arrive, il y a un problème à ça. C'est qu'à un moment donné, si je mets ma confiance dans mes capacités, dans mes talents, dans mes ressources, dans mes moyens, ces capacités-là, ces talents-là, ces ressources-là, ces moyens-là ont une limite. Puis à un moment donné, on peut perdre notre dignité, ou en tout cas, la valeur qu'on s'attribue nous-mêmes. Puis dans la spiritualité populaire, eh bien, ce qu'on dit continuellement, c'est « chérissez le divin qui est en vous ». Mais quand on se laisse pénétrer par la lumière, elle produit un inconfort. La lumière de Jésus-Christ, elle produit un inconfort. Elle va même amener à condamner des aspects de notre vie. Et c'est là que vous allez dire « ouais, mais c'est là, toi, le chrétien, j'aime pas ton message, message de condamnation. Si tu arrêtes là, c'est certain que ce n'est pas agréable. Mais si tu laisses la lumière t'amener là où elle veut t'amener, c'est là que la libération et ce que ça produit ce qu'on vient de vivre il y a quelques instants. Ça nous amène à chanter notre reconnaissance à Dieu. Parce qu'il veut nous libérer. Mais cet inconfort-là est nécessaire parce que c'est souvent la douleur qui va nous amener chez un médecin. Alors, vous savez, à un moment donné, j'ai vécu un double inconfort dans mon corps et dans mon cœur. Je ne sais pas d'où mon fils a appris ça, mais des fois, il me jouait des tours. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Il aime faire des farces, jouer des tours. Ça doit être à cause de sa mère, mais bon. À un moment donné, dans notre porte, on avait une poignée qui se barrait par en arrière et une autre serrure, mais ce n'est pas la même clé. Il décide de barrer la porte par la poignée, mais je n'ai pas la clé. J'essaie de rentrer, impossible, c'est barré par en dedans. Je n'ai pas la clé. Alors, je sais que lui, il l'avait déjà faite. Mais il y avait quelqu'un à l'intérieur, donc on a pu débarrer. Mais là, il n'y avait personne. Alors, ma réaction, ça a été de donner un coup de pied sur la porte. Savez-vous ce qui s'est passé? Douleur! Douleur! Mais la douleur s'est mise à enfler. S'est mise à devenir bleue. Le tour de mes deux orteils du milieu ont commencé à changer de couleur. Et là, je n'étais plus capable de marcher. Ça ne marchait pas, mon affaire. Fait que là, Carole, elle me dit, « Va falloir t'aller voir le médecin. » Oh non, ça, c'est comme dire à un gars, faut que tu montes le meuble. Bien, faut que tu lises le petit guide d'instruction. Oh non! Moi, j'essaie toujours de voir comment ça marche avant. Puis si j'ai un problème, je vais voir le guide, tu sais. Mais finalement, c'est toujours mieux de voir le guide. J'en connais un, lui, qui étudie le guide une semaine avant pour le faire comme il faut. Mais bon, j'ai l'orteil cassé. Mais savez-vous, c'est... Bon, ça, c'est la douleur physique. Mais là, j'étais embarrassé par une douleur dans mon cœur. Quand je suis allé voir le médecin, puis elle m'a fait passer des radiographies, puis elle était gentille, la madame. Mais elle me dit, savez-vous quoi, je regarde vos radiographies, M. Lantier, mais j'ai jamais vu un orteil cassé comme ça. Tu sais, d'habitude, tu reçois une roche sur le pied, quelque chose. Elle dit, je ne veux pas me mêler de mes affaires, mais vu que j'ai rarement vu, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, là, j'avais honte. Je me suis mis à rougir. J'étais là, hey, j'y compte-tu pas. Je dis, hey, écoutez, j'étais fâché. J'ai pogné les nerfs, puis j'ai donné un coup de pied sur la porte. Elle dit, vous deviez être drôlement fâché, parce que de la manière qu'elle est cassée, c'est tout un impact que vous avez eu. Hey, là, je filais en bon québécois cheap. En d'autres mots, pour mes amis français, je valais pas cher. Je valais pas cher le kilo. Alors, le psaume 90, verset 8, résume très bien ce sentiment-là. Il dit, tu mets, 90, verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Et c'est ça qui est inconfortable. Quand le Seigneur met en lumière nos motifs, nos raisons, ce qui fait de nous des gens, justement, moins lumineux, moins brillants, moins rayonnants. Mais ce qui est agréable, c'est que cette lumière-là veut nous libérer, nous sauver. Cet inconfort-là, cette honte, cette culpabilité-là, c'est une douleur qui est là pour nous amener vers le Sauveur qui, lui, a payé pour nos fautes. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'en ayant payé pour nos fautes, on peut se tourner vers lui et espérer que même s'il y a un inconfort de sa lumière, il y a aussi un espoir d'être pardonné, d'être libéré. Le sens de la lumière est révélé dans le psaume 43, verset 3. C'est dit dans le psaume 43, verset 3, « Sa lumière nous guide et nous amène vers sa présence. » Voici ce que nous dit le verset. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me guident et me conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure. La raison d'être la lumière de Dieu, lorsqu'elle crée un inconfort, c'est pour nous tourner vers notre Sauveur, celui qui a payé pour nos fautes. Et en terminant, j'aimerais vous lire un dernier passage dans Michée chapitre 7, versets 7 à 9. Michée 7, 7 à 9. Et les musiciens peuvent s'approcher pour conclure cette célébration. Dans Michée 7, 7 à 9, c'est une époque où est-ce que Israël est divisé. Il y a le royaume du nord, le royaume du sud. À une époque où il y a une tension. Même s'il y a un rituel, il y a une religiosité dans le royaume du sud, de plus en plus de gens associés à Dieu et à la loi de Moïse se détachent de ce que Dieu demande. Et là, Dieu envoie son prophète pour dire, hey, écoute, on a une entente ensemble, il y a une alliance entre toi, mon peuple, et moi. Et là, je vais t'amener à être sous la domination d'une autre nation parce que tu ne respectes pas l'entente, l'engagement. Et lui, le prophète, est brisé dans son cœur. Et c'est à une époque que même les gens ont de la difficulté à faire confiance aux gens de leur famille tellement que socialement, on vit une époque intensément désorganisée et désagréable. Mais au travers de ce passage-là, de Michée chapitre 7, verset 7, on a une parole d'espoir. Ça dit Michée chapitre 7, verset 7, « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Et en ayant payé pour nos fautes, le Seigneur, il n'est pas en train de nous dire, OK, je vais faire semblant que tu n'as pas commis de faute. Je vais faire semblant que tu n'es pas coupable. Il va dire, non, je veux mettre en lumière ta culpabilité, ta honte. Je vais mettre en lumière que tu as passé à côté de mon plan. Je vais mettre en lumière que tu t'es rebellé contre moi. Je vais mettre en lumière que tu t'es entêté contre moi. Je vais mettre en lumière que tu as fait semblant que je t'ai pas parlé. Mais pour que tu viennes à moi, pour que tu vois l'état de ton cœur et que je puisse payer pour ta faute et te redonner de l'espoir. Te redonner de l'espoir que le pardon t'est accordé. Et maintenant, tu peux vivre comme une personne libérée. Et c'est ça l'essence de la bonne nouvelle. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. Merci parce que, oui, il y a un côté inconfortable à être face à ta lumière, parce que même nos fautes cachées sont mises en évidence. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as payé pour nos fautes, tu as payé pour ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on cache. Et on veut juste dire qu'on est reconnaissant et que c'est une bonne nouvelle que tu sois venu dans ce monde pour nous montrer notre état et pour nous tendre la main, une main qui a été clouée pour nous. Merci pour ta mort à la croix. Merci pour ta venue sur terre et pour ta mort à la croix où est-ce que tu as pris nos fautes et que tu es venu accomplir cette mission ultime de prendre notre place, de prendre notre condamnation, de prendre notre culpabilité, de souffrir pour nous donner une vie nouvelle et une espérance nouvelle en toi. Merci Seigneur pour cette venue, et merci qu'aujourd'hui on peut célébrer ta venue parce que c'est une bonne nouvelle. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen.